Mimi, tu répètes toujours les mêmes histoires.
Normal, c'est vendredi, c'est le best-of.
Vendredi déjà, mais déjà par rapport à quoi ? À l'agenda, aux montres, aux semaines qu'on empile les unes sur les autres. Vous aussi, vous avez cette impression bizarre qu'on n'a rien vu passer et qu'on a pourtant tout traversé. On se dit, tiens, où sont passés ces jours ? Dans quel tiroir invisible on les range ? On a les lundis fatigués, les mardis trop pressés, les mercredis où l'on rêve d'être ailleurs et soudain, vendredi. Comme si le temps s'était amusé à accélérer, à nous faire une farce. Alors je vous propose ceci, on ne court pas, on ne saute pas au week-end. On s'arrête une minute juste ici pour écouter, parce qu'il y a peut-être plus de vie dans une petite heure d'émission que dans toute une semaine de métro, boulot, apéro. Voilà, on va fouiller ensemble dans ce sac de la semaine et voir ce qu'il en reste. C'est l'agité du local, votre émission quotidienne, en tout cas c'est le best-of, au cas où vous auriez manqué quelque chose.
Pas besoin de passeport, vous êtes déjà dans l'agité du local.
Cette semaine, partout en France, on parle d'Alzheimer, une maladie qui touche la mémoire, mais pas seulement, une maladie qui bouleverse aussi les familles et qui nous interroge sur ce qui reste quand les souvenirs s'effacent. Pour en parler avec nous, je le disais, j'ai le plaisir de vous avoir avec nous tous les deux. Paul Chouanet, vous êtes le président de l'association France Alzheimer Mayenne. À vos côtés se trouve Monique Chevalier-Martin. Peut-être pour recontextualiser, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle de l'association sur le territoire ?
Oui, donc notre association est une association de familles et de personnes malades à l'échelle de l'ensemble du département de la Mayenne. Et nous appartenons à une fédération qui regroupe les... Il y a une association par département en France et en Outre-mer et dans les départements d'Outre-mer, en fait. Et la maladie d'Alzheimer, ce qui la caractérise, si vous voulez, c'est une maladie de la relation. Parce que la personne elle-même, elle oublie, et donc les oublis, ça crée des difficultés de vie quotidienne, et puis relation avec elle-même, relation avec ses proches, et surtout aussi relation avec le monde extérieur, social, etc. Et puis cette pathologie, quand elle progresse dans le cerveau, elle va petit à petit désadapter la personne de sa vie quotidienne. Je ne sais plus comment j'enfile mon vêtement, ou je ne sais plus comment je fais ma cuisine, ou je ne sais plus comment je range mes affaires. Et donc, associer la perte de la relation et la perte de l'adaptation à notre vie quotidienne, ça complique beaucoup la vie, y compris donc pour le proche, hein, qui est parfois avec la personne, hein, lorsque les personnes vivent encore en couple. Par contre, ce qui demeure tout le temps, c'est que ce qui a été rangé dans le cerveau avant d'être malade, est toujours présent. Toujours, toujours présent. Les sentiments, l'histoire de vie, le métier, le contenu, la famille, tous les rôles de la vie en termes d'éducateur de ses propres enfants, en termes d'épouse, de mère, en termes de parents, de citoyens, tout ça, le travail, tout ça demeure dans son cerveau. Et donc s'il y a une écoute suffisante, des capacités d'offre sensorielle, hein, parce que la personne, elle n'arrive plus à élaborer des pensées. Mais elle va vivre avec tous ses sens. Donc elle entend, elle voit, elle touche ce que vous avez évoqué en introduction. Elle perçoit ce qui se passe et à partir de là, elle va continuer d'échanger, de vivre.
C'est à partir de cela peut-être qu'on construit un accompagnement. C'est aussi là-dessus que France Alzheimer construit peut-être ses propositions sur le territoire.
Oui, avec différentes offres, hein, évidemment. Alors, nous, on a des offres envers les personnes malades pour réentraîner la mémoire, mais aussi, pour, comme on l'a dit tout à l'heure, en sensoriel, avec de l'art-thérapie, donc tout ce qui est manipulation, création, avec aussi de la musique, hein, qui est donc là aussi du sensoriel fort, et de la danse, etc. Et il y a aussi des activités telles que des activités physiques. On va reparler du tennis de table. Hein. Aujourd'hui, la recherche a démontré tout le grand intérêt du tennis de table pour ces personnes. Et puis, on a aussi des activités avec les aidants, de soutien, de rencontres, pour essayer de dépasser le « simplement prenez soin de vous, ne vous oubliez pas », parce que c'est toujours ce qu'on entend et ce qu'on dit lorsqu'on est aidant. Et on essaie de faire une offre un peu différente pour sortir de ça et passer au « comment faire ». parce que les aidants souffrent surtout de travail physique important, de travail mental qui va aussi entraîner des fatigues. Et là, on a des offres spécifiques autour de ça, telles que par exemple la sophro-relaxation, telles aussi que des épisodes de festifs, de liens sociaux qui vont permettre en fait de vivre.
La question que l'on pose aujourd'hui, c'est que reste-t-il quand la mémoire s'efface ? On peut insister sur effectivement la disparition du souvenir, mais malgré tout la présence enfin, de certains souvenirs, d'une partie de la mémoire. Peut-être qu'on peut redéfinir justement, parce que je sens que je manque de précision. Paul, je vous vois tiquer un petit peu.
Non, mais je vous dis, la personne, elle ne va plus arriver à stocker dans sa mémoire les événements de vie, sauf des événements fortement connotés émotionnellement, la naissance d'un petit-fils, d'un arrière-petit-fils, le mariage, etc. Le décès aussi d'un frère ou d'une sœur à leur âge, c'est possible. Et donc, ces mécanismes-là risquent encore d'être stockés, mais la personne, elle ne va plus mettre dans sa mémoire, lorsqu'elle est malade, les souvenirs. Par contre, tout ce qui a été rangé avant, et c'est encore dedans. Mais elle, toute seule, elle n'arrive plus à les rappeler. Elle a besoin d'un tiers pour arriver à se rappeler qui elle était au niveau de son identité propre et de sa vie. Et donc, c'est un peu le rôle, nous, en termes d'association, de faire des formations, des parcours auprès des familles et des aidants pour, justement, favoriser ces mécanismes de maintien des capacités relationnelles et des maintiens de la personne comme sujet de son existence, en fait. Qu'elle soit encore existante à travers tout ce qu'elle a été. Parce qu'aujourd'hui, elle a du mal, toute seule, à le rendre et à le restituer, parce que c'est un peu ce que dans notre vie quotidienne on discute. On rencontre un ami, on parle de ce qu'on a fait ensemble, on rencontre quelqu'un d'autre, on parle de ce qu'on a vécu ensemble, et elle ne peut plus faire ça s'il n'y a pas un processus relationnel particulier qui va l'aider à le faire.
C'est la réinvention d'un certain langage, Monique. La parole se fragilise, mais d'autres langages apparaissent, le corps, le regard, le toucher. On en a dit un petit peu quelques mots, quelle place accordez-vous à ces formes de communication quand on est confronté à la maladie ?
Alors, quand son proche perd sa parole, il lui reste encore plein d'autres moyens de communiquer. Le regard est quelque chose d'essentiel, et le sourire, et le toucher. Tenir la main du malade qu'on a côtoyé, qu'on continue de côtoyer, il se passe plein de choses. Et le regard, les sourires, y a pas... c'est un autre mode de communication. Et dans l'importance de ce que disait Paul tout à l'heure, c'est on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont stockées dans la mémoire. Et celui qui accompagne, qui a partagé toujours ses moments de vie, il sait aussi les faire ressortir. Et du coup, la personne revit un peu ces choses-là. Enfin, pas consciemment forcément, mais le vécu, il est là, et l'accompagnement étant là, il est essentiel. Et il est essentiel aussi que l'accompagnant ne soit pas seul à porter tout ça.
C'est ça, c'est important de rappeler effectivement que la maladie bouleverse aussi les familles. Il y a des grandes difficultés par étape, même que rencontrent les aidants au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Est-ce qu'on peut rappeler ces difficultés auxquelles les aidants sont confrontés le plus ? Peut-être est-ce qu'il y a des particularités en Mayenne, même dans l'accompagnement, dans ce qui est proposé ?
Alors l'accompagnement, il est essentiel, accompagnant de l'aidant et de l'aider. Et je dirais, c'est aussi de soutenir tout le temps l'aidant dans le fait qu'il doit toujours s'adapter à de nouveaux comportements et toujours aussi lui puiser dans ses souvenirs et dans le vécu qu'il a eu avec la personne et être accompagné aussi dans tout ça. D'où l'importance aussi que l'aidant puisse bénéficier du soutien de professionnels et de bénévoles d'associations comme France Alzheimer Mayenne. Donc il est essentiel d'être soutenu tout le temps dans ce parcours-là parce qu'on sait que la maladie isole, mais pas seulement cette maladie-là, mais beaucoup d'autres, mais celle-là encore plus particulièrement. Et donc ne pas rester isolé, pas seul, quoi. Apporter tout ce qu'il faut porter en tant qu'aidant.
Parce que l'isolement est aussi lié au discours. La personne n'a plus de discours parce que son cerveau ne génère pas d'idées nouvelles. Et donc, elle est plutôt dans un processus de ritualisation ou de gestes ou de mouvements. Et ne générant pas d'idées nouvelles, tout dialogue est compliqué. Beaucoup d'aidants, en fait, ont une souffrance importante de de pas parler ou de parler très peu ou de parler seul. Et ça, c'est une vraie souffrance psychologique lorsque l'on est comme ça. Il y a la présence de quelqu'un, mais le dialogue est difficile. Et alors qu'on peut malgré tout utiliser le dialogue parce que la personne, elle entend encore. On peut utiliser, lui montrer parce qu'elle voit encore. On peut l'emmener, se promener parce qu'elle marche encore. On peut lui faire ressentir, vous voyez, des choses parce que la personne, elle vit non plus dans une relation telle qu'on la vit nous, mais elle vit surtout uniquement dans un ressenti. Elle voit une voiture, elle va ressentir la vision de cette voiture sous différentes formes. Reconnaître que ça peut être une de ses voitures, mais que ça peut aussi ne jamais lui dire quelque chose, ou ça va lui évoquer simplement la couleur, ou ça va lui évoquer simplement l'avant, l'arrière, peu importe. Mais elle vit uniquement du perceptif. Ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle touche. Et donc, ce mécanisme-là est difficile au niveau d'un permanent quotidien.
C'est une perception qui, effectivement, des choses, de l'environnement qui évolue. Et pour le proche aidant, il y a aussi des étapes d'acceptation, j'imagine, quand on est confronté à un diagnostic. C'est pas si évident que ça, d'accepter que son proche va changer, que le rapport avec ce proche va évoluer.
Il est en effet très difficile pour un aidant de cheminer justement à côté de son proche qui est en train de développer cette fichue maladie. Et c'est vrai que le fait de pouvoir poser le diagnostic, c'est déjà une première étape. Alors, le diagnostic étant posé, ben, il y a aussi l'étape suivante, c'est de l'acceptation de la maladie, même s'il y avait des signes, bien sûr. Mais il faut cette étape-là, et ensuite accepter que je ne peux pas rester tout seul avec tout ça. Je reviens de nouveau sur l'aide, le soutien à l'aidant et à l'aider. Je dis toujours les deux. C'est important que les deux soient soutenus parce qu'il faut, continuer de cheminer avec de nouvelles embûches.
Quelles sont continuer. Quels sont les allez-y Paul. Ouais.
Après le diagnostic, le jour du diagnostic, c'est pas un lundi à 15h qui va bouleverser la vie, si vous voulez. Mais c'est l'annonce que l'on reçoit. Et cette annonce que l'on reçoit, il y a besoin de la digérer, de l'avaler. Hein, c'est compliqué. Et donc, pour arriver petit à petit au fil des jours, à se dire, qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Il y a d'autres maladies qui peuvent nous tomber sur la tête, hein, mais qui n'ont pas la même image dans la société, ou le même pronostic aussi, ou les mêmes capacités de guérison. Et donc, avec les maladies neuroévolutives, il y en a un, tel qu'une maladie de Parkinson, ou il y a la sclérose en plaques, il y a d'autres maladies évolutives aussi, qui n'ont pas directement de traitement pour les enlever. Et donc, la question, c'est se dire, qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Et le « nous », c'est à la fois le conjoint, la conjointe, les enfants, la personne malade elle-même, mais les amis, c'est-à-dire que cette démarche-là, elle est compliquée parce qu'elle nous met en difficulté avec cette personne qui est en difficulté relationnellement et qui petit à petit se désadapte. Elle nous met en difficulté parce que les amis, ils ont tendance à moins venir, ou on a moins de coups de téléphone. Nous-mêmes aussi, par rapport au risque de ce que la personne peut dire ou faire, on va peut-être hésiter à aller à tel ou tel endroit ou sortir, etc. Donc il y a un processus d'isolement social qui est encore accentué plus s'il est aussi géographique. C'est-à-dire si on est là où on habite, ça dépend. Et donc ce mécanisme-là va mettre en souffrance et avoir des répercussions au quotidien, c'est-à-dire sur comment je continue d'avoir plaisir à cuisiner, d'avoir plaisir à vivre là où je suis, d'avoir plaisir à... Et puis d'autres inconvénients qui vont... je me retrouve avec plus de tâches à faire moi-même parce qu'il y a quelqu'un qui participe moins. Je me retrouve parfois à être réveillé la nuit parce que la personne, elle aussi, elle a des troubles autour du réveil ou du sommeil ou de réendormissement. Enfin, vous voyez, ça bouleverse complètement et il y a besoin là d'avoir des professionnels et d'avoir des associations pour dire je vais aller voir ce qu'on va faire avec ça.
Vous l'avez dit, France, l'association France Alzheimer ou France Alzheimer. Mayenne est une association de famille. C'est important aussi de se croiser, d'échanger entre personnes qui vivent cette maladie, qui y sont confrontées. Il faut se dire aussi qu'en fait, d'une personne à une autre, on n'a pas exactement les mêmes symptômes, si on peut dire.
Bien sûr, les caractéristiques diffèrent d'un malade à l'autre. Pareil, le vécu du proche diffère aussi selon les familles, bien entendu. Mais le fait de se rencontrer, que ce soit des groupes de parole, que ce soit autour des activités proposées aux aidants ou aux aidés, il y a des échanges très riches et c'est très soutenant pour les aidants de pouvoir partager même des choses du quotidien, du banal ou du moins banal, mais le fait de pouvoir échanger, c'est très enrichissant et c'est soutenant. C'est soutenant pour tous et on sait que les aidants le soulignent. Hein. Tout à l'heure, vous parliez aussi du ping-pong autour de justement pour aider tous ces malades. Mais les conjoints ou les aidants qui ne participent pas forcément à l'activité sont là quand même. Et il y a un échange entre eux, entre les aidants et les aidés, tout ça.
Il ne faut pas hésiter à passer le pas de la porte, à téléphoner, en tout cas prendre des informations, essayer, tenter et voir s'il y a des choses, si on trouve un écho à notre histoire. Paul, ouais. Vous proposez avec l'association différents rendez-vous prochainement pour parler de cette maladie, pour la mettre en avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
On a tendance à profiter un peu de la semaine mondiale, hein, tout entière. Donc, on a proposé cette année, en fait, de faire des ciné-débats à travers tout le département de la Mayenne autour d'un film qui s'appelle Les Esprits Libres. Donc, on voit bien déjà dans le titre, ce sont des personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer et qui, dans un établissement, partent en stage de théâtre, en fait, mais pendant 15 jours dans un lieu différent de leur établissement avec les soignants qui s'occupaient d'eux. Et là, il y a un autre mode de vie qui s'installe et qui se passe et qui décrit parfaitement, en fait, les ressources des personnes, parce que les ressources des personnes, elles sont capables d'élaborer un spectacle et des scénettes malgré tous leurs troubles et tout ce qui se passe. Et donc, on a fait ça hier soir déjà au Vox à Mayenne. Donc, ce soir, au Bourgneuf-la-Forêt, à 20h30, hein, c'est au cinéma Le Trianon. Demain soir, 18, au Cinéville à Laval, à 20h. Ensuite, nous avons le 23 septembre à Renazé, à 20h, au cinéma Le Vox. Et le 25 septembre, à 20h30, à Évron, au cinéma Yves Robert. Et puis, le 9 octobre, au Palace, à Château-Gontier. Là aussi, donc à 20h, c'est pour, après le film, faire un débat. L'entrée du film est gratuite, donc les personnes peuvent venir assister au film et passer en fait un moment. Alors c'est vrai que c'est le soir, mais c'est pour qu'il y ait aussi une ouverture possible aux familles, aux proches qui parfois travaillent et qui parfois ne peuvent pas se libérer dans l'après-midi, et donc on est plutôt sur des séances du soir. Et parfois par contre ça pose une difficulté pour une personne malade et son proche aidant qui a plus de difficultés à sortir en soirée, ce qu'on peut comprendre avec les rythmes qu'impose la maladie.
Si on veut vous contacter en dehors de ces rendez-vous, si l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute il ressent le besoin, se dit tiens, où est-ce que ça se passe?
Oui, donc on est installé dans deux endroits en Mayenne, à la Maison des Associations à Laval, dans le quartier Ferrier. Et donc là, on a un local. Et hein, autrement, il y a aussi un site internet, hein, francealzheimer.org/mayenne, pour permettre de découvrir l'ensemble de toutes nos activités. Et puis, il y a aussi donc des réunions. Hein. Nous faisons des réunions dans chaque EPCI, hein, ex-communauté de communes du département. En 2025, par exemple, on va faire 55 réunions à travers tout le département pour les proches, en mettant ça dans les journaux, en mettant ça pour permettre aux personnes de venir, comme on le disait tout à l'heure, hein, sortir de son isolement, rencontrer d'autres personnes, voir comment les autres s'en sortent ou font, parce que c'est surtout du partage et de la ressource en fait. Hein. Et donc voilà, autrement on a un mail qui est le contact53@francealzheimer.org.
Thank you. Longues heures de la nuit. Aux perles de rosée.
C'était Daniel Darc et Lady numéro 2. Vous le savez, le vendredi, on se permet des petits écarts, des chemins de traverse quand même. C'est un peu pour couper la chic à ceux qui nous diraient « c'est du vu et revu ». Alors je dis non, pas seulement. On s'offre quelque chose, on se fait cadeau aussi le vendredi, puisqu'on vous parle aussi de coups de cœur littéraires. Écoutez.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un coup de cœur BD, une petite chronique. Je pense que je vais me jouer de vous, chers auditeurs. Si je vous dis l'histoire d'un oracle qui n'est pas écouté par son pays, vous pensez bien sûr à Cassandre, qui est une figure de la mythologie grecque qu'on écoutait sans écouter. On suit une personne qui est un peu comme elle, qui va dire à tout son village, le village va être détruit, nous allons devoir partir en exode pour partir et trouver un nouvel endroit où vivre. Donc ils vont vivre plein d'aventures, ils vont rencontrer des hommes sanguinaires, ils vont rencontrer d'autres hommes, ils vont vivre vraiment une odyssée au sens Ulysse du terme. Et maintenant, pourquoi je me joue de vous? Parce que vous dites que c'est une BD adulte. Et en fait non, parce que tous les personnages c'est des lapins. Et on suit un petit lapin qui s'appelle Fever. Fever, il a une certaine puissance, il voit l'avenir mais personne ne le croit. Et il se trouve que sa garenne, d'où le lapin de garenne d'ailleurs, parce qu'ils vivent dans une garenne, ne croit pas que la garenne va être détruite. Et donc du coup Fever va partir avec deux ou trois lapins pour retrouver un nouvel endroit. C'est passionnant, c'est une grande odyssée, on s'en fiche que ce soit des lapins parce que c'est profondément humain, c'est profondément adulte. Ça s'appelle Watership Down et c'est l'adaptation d'un grand texte de Adams. Et je vous le conseille absolument, c'est chez Toussaint l'Ouverture. La couverture est magnifique, le bouquin est super chouette. Et il y a tout un vocabulaire lapinesque dont je vous donne une définition au pif. Si je vous dis farfaler, c'est-à-dire remonter à la surface pour se nourrir. Remonter à la surface, farf. Pour se nourrir, farfaler. C'est le glossaire lapine fait par Richard Adams. Et c'est un bouquin qui est plein de poésie et qui vous emmènera voyager absolument. Donc ça s'appelle Watership Down et c'est un super roman graphique.
Retrouvez Aime lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, et sur l'autre radio.
Château-Gontier va une nouvelle fois vibrer au rythme des bulles et des cases. Les 4 et 5 octobre, le festival de la BD au pays de Château-Gontier revient pour sa 15e édition avec au programme plus de 70 auteurs, des expositions, des rencontres et des surprises autour de l'univers de la bande dessinée. Un rendez-vous devenu incontournable qui continue de grandir tout en gardant son esprit familial. Pour en parler avec nous aujourd'hui, deux des chevilles ouvrières de l'événement, Éric Lequecq, président et de l'association, et Michel Perrault, le vice-président. Écoutez, Eric, quelle est la particularité de cette 15e édition?
Je dirais la thématique. Cette année, c'est celui de la mer, avec un invité d'honneur qui a beaucoup travaillé dans cet univers et accompagné d'auteurs qui également sont des auteurs marins.
On parle pour cette année de la 15e édition. Comment est-ce que le festival a évolué depuis ses débuts et quel rôle est-ce qu'il occupe aujourd'hui dans le paysage culturel mayennais ? C'est important de le préciser, c'est un rendez-vous qui est attendu.
Oui, je pense que la bande dessinée est présente en Mayenne depuis très très longtemps, puisqu'avant il y avait un festival à Laval qui a duré quand même 16 ans. Et donc ça fait plus de 30 ans qu'il y a des manifestations autour de la bande dessinée. Pour notre part, c'est un art qui n'est pas à nos yeux assez reconnu et qu'on a envie de faire découvrir et redécouvrir. Il est trop souvent assimilé à, je dirais, des romans de Kedgar. Et nous, on a conscience qu'il est important de faire découvrir à la fois le travail graphique, mais aussi narratif des auteurs de bande dessinée.
Cette année, l'invité d'honneur, c'est Emmanuel Lepage. Qu'est-ce qui a motivé votre choix et qu'est-ce qu'il apporte sur cette nouvelle édition ?
Alors, motiver le choix, je dirais, c'est tout simple. Qu'on avait d'abord pris un thème qui était celui de la mer. Et comme on a un peu de démocratie quand même dans notre association, on a établi une liste de noms d'auteurs susceptibles de à la fois faire l'affiche, mais aussi de présenter une exposition de qualité. Et Emmanuel Lepage est revenu dans toutes les bouches. Il est, je dirais, incontournable, parce que c'est l'un des, aujourd'hui, des auteurs contemporains les plus importants, et dans le domaine de la mer particulièrement. Il a beaucoup d'histoires à raconter pour être un aventurier aussi. Il a parcouru plusieurs fois le monde, travaillé en Antarctique, plus récemment aux îles Kerguelen. Enfin voilà, c'est un univers qu'il connaît très très bien.
72 auteurs sont attendus cette année. Comment est-ce que vous construisez une programmation qui puisse parler à la fois aux passionnés, mais aussi au grand public ? Puisque le grand public, vous ne l'oubliez pas du tout pour ce rendez-vous, au contraire.
C'est un travail d'une année, je dirais. On se déplace beaucoup sur les autres salons, je dirais entre 10 et 12, 13 festivals où on a l'occasion de rencontrer des auteurs, faire des rencontres. On ne s'arrête pas uniquement sur la qualité graphique et narrative des auteurs, en l'occurrence donc ce qu'ils produisent, mais aussi ce qu'ils sont, le contact qu'ils ont avec le public lors des dédicaces, qu'ils sont aussi en dehors du festival, autour des tables et autres. Ça apporte convivialité. Donc c'est un peu comme ça qu'on construit tout simplement le petit à petit la liste des auteurs qui viennent sur Château-Gontier.
Plusieurs expositions sont également proposées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce parcours d'exposition autour de la mer justement qui va avoir lieu au sein du cloître ?
Alors, il y a en effet plusieurs expositions. Une exposition qui concerne Emmanuel Lepage, qui est l'invité d'honneur bien sûr, et une autre exposition qui est dans les fonds marins avec Gaëtan Nock, et puis Madame la Dame, qui est navigatrice, qui est peintre, qui est auteur de bande dessinée, et qui raconte là une histoire dans un album qui s'intitule Bleu amer.
Il y a également un auteur breton, Yann Le Sachet, qui lui parcourt les chemins de la Bretagne pour faire découvrir les petites criques, les ports et la mer en l'occurrence. Donc ça aussi, c'est une exposition intéressante qui sera proposée avec des originaux dans le cadre du festival.
La bande dessinée, c'est effectivement tourner des pages, mais c'est aussi, en l'occurrence, pendant le festival, l'occasion d'un concert dessiné. C'est une belle opportunité aussi de découvrir sensoriellement tout ce que peut l'illustration.
Oui, là, je dirais, c'est une immersion, en fait, et puis une osmose entre la chanteuse, en l'occurrence, et le dessinateur, puisque le dessinateur interprète à sa façon. Avec un parcours très rapide, puisqu'il a 2 minutes 30 pour exécuter un dessin, en moyenne. Et donc, avec sa sensibilité et celle de la chanteuse, en l'occurrence, il y a quelque chose qui se crée et qui est visuel et auditif. Donc ça, c'est un spectacle auquel on tient énormément. C'est souvent aussi l'occasion pour les jeunes enfants d'aller à leur premier concert. On a des gamins qui ne sont jamais allés dans une salle de concert et qui découvrent un jour cet univers. Et donc nous, on est très fiers de contribuer à cette découverte.
Est-ce que vous vous souvenez de votre premier coup de foudre avec une BD, avec un auteur ?
Pour ma part, je reviens à Tintin, mais je crois qu'on est beaucoup là-dessus. Moi, j'ai découvert la bande dessinée avec Tintin. Et après, bah, j'ai découvert Gaston, les classiques, Astérix et autres, pour m'intéresser plus en profondeur, je dirais, à la bande dessinée. Mais l'appréhension de la bande dessinée se fait souvent par cet univers de Tintin qui est quand même, 50 ans après la mort, je crois, de son auteur, encore très très présent dans la tête des uns et des autres. Et surtout, les jeunes enfants s'y intéressent encore. C'est ça qui est extraordinaire. Donc voilà, c'est une belle passerelle, je dirais.
Oui, en plus, on est à un âge où pratiquement Tintin, il était tout seul, quoi.
C'est... L'art de la BD, les toutes premières, c'est arrivé quand ?
On parle de Rudolf Stopfer dans les années 1880, je crois. Et puis après, il y a eu effectivement, avant que les phylactères sont les bulles, avant qu'elles ne soient créées, il y avait un texte en dessous, où il y avait, par exemple, avec Bécassine. Bécassine, il n'y a pas de bulles. Mais bon, ça sont les grands. Et aux États-Unis, il y avait de très très grands dessinateurs et des bandes dessinées plus confidentielles qui ont été traduites en France. Je pense au Kitzhamerkin. Il y avait après Tintin qui arrivait très vite, hein, et puis d'autres séries. Mais c'est quand même en France, la BD franco-belge en l'occurrence, qui pour nous a été marquante.
Et alors le rendez-vous que l'on donne à l'auditeur de l'autre radio, c'est le 4 et 5 octobre pour retrouver la nouvelle édition, la 15e édition du Festival de la BD au Cloître des Ursulines à Château-Gontier.
L'agité du local, c'est un peu comme toi, indispensable.
C'est tout nouveau dans l'agité du local. Chaque vendredi, une voix qui débarque, un regard neuf sur la semaine. Écoutez, je vous le présente, il s'agit de Magnette.
La chronique de Magnette. Sur l'eau pour toi.
Bonjour, toi. Hey, j'avoue que ça me botte de te retrouver après toutes ces semaines passées. Loin du micro, loin de l'affreux Jojo, loin de ma chronique, tu as sans doute appris que cette année 2025, qui est entrée dans les mois en re, est la première depuis 1945 à avoir connu plus de décès que de naissances. Simple constat. Et pourtant, les tétines font un tabac. Mais là, je te cause de tétine pour adulte. Et ça me laisse sûrement au postérieur. J'ai souri quand j'ai vu que les patinettes tombées dans l'oubli durant des lustres ont fait un retour fracassant. Le guidon tenu par des gamines et des gamins de tout âge. Riche idée, c'est le cas de le dire. Le genre de truc qui rajeunit et de nombreuses villes désireuses d'être tendance ont pris l'initiative de mettre les engins à la dispo des habitants. Bon. Depuis, certaines ont décidé d'arrêter la récré pour cause de sacré foutoir. Mais la tétine, qu'est-ce que tu dis à re ? Contre le stress, pour t'endormir, afin d'arrêter de cloper, pour suivre une mode made in China popularisée sur TikTok ? Philippe Richard, journaliste, nous rappelle que dans les années 90, la totote XXL a déjà fait une percée dans les communautés de rêveurs pour éviter le grincement de dents dû à la consommation de stimulants. Je suis bien placé pour te dire que ça s'appelle le bruxisme. J'ai eu une période, moi, de grincement de dents, mais ce n'était pas à cause des stimulants, c'est un héritage de grand-père. Passons, ce n'est pas très intéressant. La tétine se voulait en plus le symbole régressif d'innocence. Bonjour le programme. Depuis cette période, l'objet avait regagné sa place, c'est-à-dire le bec des minots jusqu'à l'âge de 3 ans grand maximum, grosso modo. Tu fais bien ce que tu veux, mais selon les orthodontistes, sucer ce bout de machin régulièrement expose à de gros pépins bucco-dentaires. Déjà, celles et ceux qui ont sucé leur pouce durant les prolongations, se sont farcis par la suite des problèmes de mâchoire, voire d'élocution. le genre de bricole qui peut t'amener jusqu'à une intervention chirurgicale. Merci. Et oh, ça va bien. T'es grande, t'es grand maintenant. Tu peux lâcher le morceau. Une mode. Comme celle d'être maigre comme un clou. Ah, je m'imagine une soirée en tête-à-tête avec une totote. Bonjour l'échange. Qu'est-ce que tu me racontes? Je pigerai. Crache ta tétine. Tu parles d'une rentrée sur l'autre radio. Topette. Ah, ça va mieux. Chouette plaisir de te redire topette. Ah ben on peut faire ça, le blues du dentiste de Salvador. C'est de Boris Vian.
Ce matin-là, en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là, je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un homme durant. Quel dentiste de son état et qui pourra m'arranger ça? Oh, la salle d'attente est bourrée de gens. Et pendant que j'attends, oh, oh là là, sur un brancard passe un mec tout blanc, porté par deux masters. Je me lève déjà pour foutre le camp, mais l'infirmier crie
au suivant.
Je suis debout devant le dentiste, je lui fais un sourire de crétin. Il me pousse dans le fauteuil et crie en piste, il a des tenailles à la main. Oh maman, j'ai les guiboles en fromage blanc. Avant même que j'ai pu faire ouf, il me fait déjà sauter trois dents. En moins d'une plombe, mes pauvres molaires sont retournés dans leur tombe. Oh là là, voilà qui me plombe mes deux plus belles dents. Celle que j'ai par devant. Il me grille la gueule au chalumeau et il me file un bon verre d'eau. Il me dit il faut régler votre dette, je venais d'être payé la veille. Ce salaud me fauche tout mon oseille et me refile 50 bananes. Et il ajoute en rigolant, je suis pas dentiste, je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraider. Oh. Et moi je gueule ce soir le blues du dentiste dans le noir.
Quand j'ai plus de dents, qu'est-ce que je vais lui dire à ma pépi? Alors maintenant, me lève, fraîche, me...
La chronique de la nette. Sur l'eau contre la nette.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Voilà, l'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Mais avant de filer vers le week-end, une pensée pour toutes celles et ceux qui passent par ici, au micro, vous savez, ces voix qui viennent déposer une histoire, une idée, un coup de cœur et qui repartent comme on laisse un parfum dans une pièce. Merci à elles, à eux. Sans ça, la radio ne serait qu'un bruit de plus, alors que là, elles deviennent conversation. On va regarder ensemble ce qui se passe sur l'autre radio ce week-end. Ce soir à 19h, retour dans le passé avec le Club Oldies. Vous la connaissez, l'émission Dance Hall Social Club vous sert ses sucreries musicales venues d'hier. Côté week-end, samedi à 13h, c'est Rock Dreams qui vous emmène du côté de The Offspring avec un focus sur le groupe et donc son univers. Dimanche, rendez-vous à 11h pour Sport Épique, une émission toutes les deux semaines menée par Benoît où on parle sport en Mayenne et pas seulement, avec des invités, des consultants, des quiz, des débats et surtout de la bonne humeur. Moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec Roland Bouchon, directeur du théâtre L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe, qui ouvrira avec nous le bal de cette nouvelle saison. Et on se posera la question de ce à quoi ressemble une saison de théâtre quand elle se rêve à plusieurs. D'ici là, laissez la semaine derrière vous sans trop la regarder. Le week-end est déjà en train d'arriver. Vous le méritez. S'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, tu peux parler normalement maintenant, c'est fini.
Mais Mimi, je parle toujours normalement.